Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
Ce devait être un match, ça a été un chaos absolument indescriptible. Cela s'est déroulé au Stade de France le 28 mai 2022, la Ligue des champions de football, Liverpool, le Real Madrid. Ce fut un super fail dans le stade, autour du stade et aussi un super fail en matière de communication. C'est ce que l'on vous raconte cette semaine. Et on vous le raconte grâce à deux sociologues, Bastien Soulet et Ludovic Lestrelin, qui ont produit une étude absolument passionnante sur ce ratage.
Des milliers de supporters mis en danger par un dispositif de sécurité inadapté et défaillant. C'est la conclusion de ce rapport. Ses auteurs dénoncent tout d'abord l'emplacement des lieux de filtrage et l'itinéraire pour mener les supporters de la gare au Stade de France. Des choix, selon eux, responsables des scènes de cohue observées ce soir-là.
Les supporters arrivant au RERD vont être dirigés vers un tunnel qui doit faire approximativement 2,5 m à 3 m de large. Il s'est agi d'essayer de faire passer 15 000 personnes par ce passage, ce qui ne pouvait pas fonctionner.
Le rapport critique aussi la réaction des forces de l'ordre, notamment l'usage de gaz lacrymogène. Il n'avait
pas sa place dans une fête du football.
Également contesté, les déclarations de Gérald Darmanin après la finale. Le ministre de l'Intérieur accusait les supporters anglais d'être responsables des débordements et dénonçait une fraude massive.
30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés.
Une version démentie par le rapport. Il n'existe, selon ses auteurs,
aucune preuve d'un nombre anormalement large de supporters sans billets ou avec des billets invalides.
On écoute tout d'abord Bastien Soulet revenir sur les incidents qui se sont déroulés donc au Stade de France.
Ce qui s'est passé le 28 mai 2022, c'est l'aboutissement d'un processus qui s'est traduit par un problème de gestion de flux de supporters, essentiellement des supporters non agressifs, relativement cléments, et qui finalement ont été confrontés à, pour des raisons à la fois contingentes et du fait de décisions prises par certaines parties prenantes de l'organisation de la sécurité, à finalement des difficultés pour se rendre à leur place dans le stade, à différentes étapes, transport, barrières de préfiltrage et accès donc aux tribunes. On a d'abord eu des congestions importantes, des mouvements de foule qui revêtaient un caractère dangereux à un certain moment. Ça a donc déclenché des décisions de lever de certaines barrières et donc une des conséquences a été finalement que se sont retrouvés mélangés autour du stade des populations munies de billets, vérifiées ou pas en amont, des personnes sans billets et effectivement ça a donné lieu à des scènes de chaos et donc aussi à des phénomènes de délinquance opportuniste. Et il y a quelques intrusions aussi dans l'enceinte, intrusions sauvages. Quoi.
Paradoxalement, si cet événement fut à ce point calamiteux, c'est tout simplement parce que les organisateurs étaient extrêmement soucieux de faire un événement sûr au détriment de tout le reste. On écoute à ce sujet le sociologue Ludovic Lestrelin.
L'une des grandes préoccupations finalement des acteurs en charge de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions était le maintien de l'ordre et le maintien de l'ordre dans Paris, puisqu'un arrêté avait été pris pour interdire aux supporters espagnols et anglais toute présence en fait dans le secteur des Champs-Élysées du jeudi 15h au dimanche 18h. Et donc du coup, ça s'est traduit aussi par des choix en matière d'effectifs policiers, de présence essentiellement dans Paris. Et donc du coup, finalement, d'un point de vue policier, une approche de l'événement en termes de maintien de l'ordre, prioritairement, au détriment d'une approche plus en termes de sécurité publique. Ce qui traduit aussi, in fine, une approche globale de l'événement en termes non pas d'accueil et de service au profit d'une population supporter, mais plutôt une approche globalement sécuritaire.
En fait, les organisateurs avaient peur que les supporters de Liverpool soient tous des hooligans. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'ils se fondaient sur des informations erronées et probablement vieillies. On écoute à ce sujet le sociologue Ludovic Lestrelin.
Je crois qu'il y a peut-être une sorte de suite des événements de l'Euro 2016 organisé sur le territoire français et aux violents incidents qui se sont produits à Marseille et qui impliquaient des hooligans russes et donc des images qui ont fait le tour du monde. Peut-être que ça, c'est un élément qui entre en ligne de compte. Par ailleurs, il me semble qu'il y a un élément assez important, c'est combien dans le cas français, la police française est centrale en fait dans la gestion des supporters au quotidien, hein, au-delà de cette finale de la Ligue des Champions, dans les compétitions régulières française, il y a un rôle pivot de la police française et elle est régulièrement montrée comme étant en retard dans son approche en fait des événements sportifs, dans sa façon de gérer les foules sportives, avec une doctrine qui a du mal à emprunter à ce qui se fait ailleurs en Europe, notamment dans les pays d'Europe du Nord, où depuis 2000, grosso modo, notamment d'abord aux Pays-Bas, puis dans d'autres pays européens, une approche dite ferme mais amicale s'est mise en place au niveau policier, qui repose sur d'abord du dialogue et un schéma de convivialité dans les rapports de face à face police-public, non pas un modèle dissuasif qui repose sur un rapport de force, mais plutôt de la discrétion, une approche en termes de service offert au public, un ciblage fin en fait des supporters à risque et un travail auprès des effectifs policiers sur justement la représentation des populations supporters, non pas comme une population hostile et systématiquement source de problèmes, ce qui sans doute est un élément caractéristique, je crois, moi, de la façon dont la police française approche encore le phénomène.
L'événement était mal organisé, de surcroît il y eut une grève des transports, toutefois il ne faut pas surestimer l'importance de cette grève des transports dans le chaos de la manifestation. On écoute Bastien Soulet.
On savait depuis le début qu'il y aurait des travaux, potentiellement, ou des mouvements sociaux. La grève a été d'intensité modérée. Elle a été typiquement amplifiée par des décisions, peut-être inconsidérées, de réorienter massivement les voyageurs de la ligne B du RER vers la ligne D. Et cette réorientation a été, encore une fois, assez peu débattue entre les acteurs. C'est-à-dire que c'est surtout une décision donc, des transporteurs publics et de la préfecture de police de Paris, à laquelle, par exemple, la Fédération française de football a été peu préparée. Et finalement, la Fédération française de football, l'UEFA, se sont avérées très surprises de voir à quel point, finalement, les flux avaient été réorientés vers la ligne D, contrairement à ce qui avait été décidé par la fédération qui est responsable du plan de mobilité et donc de déplacement des supporters.
Un extrait de la conférence de presse de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports le 30 mai 2022.
Ce que nous avons constaté relève de quatre sujets. Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols. Et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffres confirmés par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Nous avons d'ailleurs constaté dans les chiffres des transports publics une organisation de plus de 40% de plus de personnes qui ont pris ces transports publics pour se rendre au Stade de France. 79 000 ont pris les transports urbains. C'est, vous l'aurez constaté, la quasi-intégralité, normalement, du nombre de spectateurs qu'il y a dans ce stade. Plus 16 000 personnes en car, plus les très nombreux, les milliers de véhicules qui se sont rendus au Stade de France. La présence surnuméraire de ces 30 à 40 000 supporters britanniques est malheureusement déjà connue, notamment à Madrid, en 2019, lors du match final qui a déjà opposé Liverpool et qui avait déjà fait connaître à Madrid les mêmes types de difficultés.
Il y eut donc l'affaire des faux billets, mais en réalité, leur importance a été très largement surestimée, la voix de Bastien Soulet.
Des faux billets ont circulé, mais alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, après les discours à chaud qui ont été tenus, c'est qu'on est très vite retombé de quelques dizaines de milliers à 300 ou 400. Et puis finalement, là, dans le rapport de l'UEFA qui est sorti il y a quelques semaines, on nous apprend qu'il y en avait moins en circulation, probablement qu'en 2017 ou en 2019, édition précédente donc de finale de Ligue des Champions. Donc les faux billets n'ont pas forcément été la principale source de problème. Par contre, il y a eu des choix opérationnels dans la façon d'organiser les préfiltrages, dans la façon de choisir les itinéraires menant au stade, dans la manière aussi de faire coopérer sur ces points de préfiltrage des acteurs de la police et puis des agences de sécurité privée qui ont considérablement ralenti les flux et donc contribué à ces phénomènes de congestion qui sont, encore une fois, à l'origine du problème. C'est vraiment un problème de gestion de flux à travers les barrières de préfiltrage qui ont été prépondérants.
L'événement a donc été très mal organisé, vous l'avez compris, mais de surcroît, la communication gouvernementale a été absolument calamiteuse. On écoute Ludovic Lestrelin.
C'est l'incapacité à reconnaître assez vite qu'il y a eu un problème organisationnel et donc un enfermement dans une rhétorique de faux billets. Et du coup, effectivement, la multiplication à la fois d'articles de presse pour essayer de questionner un petit peu la communication du gouvernement et de nouveaux propos à chaque fois qui venaient faire un peu surenchère en quelque sorte. Donc, un enfermement dans une argumentation malgré tout, a été assez vite déconstruite, à la fois par la presse, puis ensuite par d'autres rapports. Peut-être parce que approche la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et que, au-delà de l'événement lui-même, c'est finalement ce qui est en jeu, c'est la capacité de notre pays à bien organiser un événement international, puisque une finale de Ligue des Champions, ce sont des équipes européennes, donc des populations étrangères qui viennent sur le sol français. Et donc voilà, il y a sans doute un enjeu politique, un enjeu d'image qui est fondamental.
La morale de cette histoire, c'est qu'en cherchant à se prémunir d'un risque, on peut se tromper de match et oublier un autre risque qui va devenir un véritable ratage. C'est très précisément ce qui s'est déroulé au Stade de France le 28 mai 2022. Superfell a été foiré à la technique par Valentin Bobinet, dévasté à la réalisation par Milia Portis Guérin et Vivien Demeyer, et enfin dévasté à la production par Juliette Deveau. Superfell.